Claire Dutrait, qui va vous présenter donc son livre « Vivre en arsenic ». Claire fera là une présentation entre lecture et puis présentation de son travail, présentation de pourquoi ce livre. Ce livre, c'est, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était un peu de l'ordre d'un voyage, parce que c'est pas linéaire, on va naviguer entre terre et eau, entre sur la terre et sous la terre, entre le monde qui est le nôtre et puis la littérature, les classiques même. Il y a même des clins d'œil aux mathématiques. Moi qui ne le suis pas au début, je ne comprenais pas ce que ça venait faire là. Et puis après, ça prend du sens quand on prend le temps de détricoter un petit peu cette œuvre-là. Et c'est en plus, voilà, elle a mis en sous-titre éco-poétique. C'est vrai qu'il y a pour moi, il y avait une leçon de géologie poétique, du coup, voilà, quelque chose qui amène à dire avec des beaux mots, avec des belles références, avec de la connaissance sur une réalité qui est plutôt, on l'évoquait à l'instant, plutôt horrible, source d'un certain nombre d'éléments pessimistes pour la suite, et avec voilà, un monde où l'extractivisme est tout puissant. Et on l'évoquait, il est valable pour ce qu'elle va évoquer maintenant sur cette vallée dans le sud-ouest, et il est valable aussi pour des coins tout proches de Saint-Étienne, notamment dans l'Allier, avec une mine de lithium qui devrait voir le jour, etc. Donc je vous invite un peu plus à découvrir tout ça, et puis après, je pense que Claire sera disponible pour dédicacer un certain nombre de livres, si cela vous plaît. Voilà, et bien bonne conférence.
Un revers du monde, des vallons escamotés, une vallée d'aigniers, des oliviers, des vignes, des sangliers, un totem, du désordre dans les saisons, de l'arsenic, la lourdeur des métaux dans les corps, dans l'eau, le vent, les sols, ma mère, un enterrement, un filon Bovary, des failles géologiques, combien de paysages dans les âges de la terre, la chaîne hercynienne, des histoires de riverains, une enquête, des prises de rôle, mais pas que. Ce n'est pas facile de parler des pollutions. Je cherche à me saisir d'une catastrophe qui ne dit pas son nom. Dans la vallée de l'Orbiel, une mine d'or et d'arsenic a existé tout au long du XXe siècle. Elle a commencé d'être exploitée un peu avant le XXe siècle et elle a fermé un peu après. Un long siècle. La vallée avait déjà connu des mines de fer exploitées par les Romains, du temps des Gallo-Romains, des mines de plomb aussi. Oui, c'est pas très précis, enfin, pas pour commencer, j'y viendrai. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter de saisir des restes de mines, de l'activité minière, des matières qui circulent encore maintenant que la mine est fermée, que les puits ont été bouchés, les infrastructures démantelées. Saisir ce qu'il en reste de matière et ce qu'elles font, ces matières, aux habitants, ce que ça fait que de vivre dans des restes. Saisir ça par des mots, par des phrases, dans un texte, tenter de dire quelque chose de cette manière très contemporaine de vivre dans des restes auxquels on n'a pas donné de nom. Quelque chose de la texture du monde d'aujourd'hui. Infâme. Infâme, c'est ce qui ne parvient pas à être dit. Immonde. Immonde, c'est ce qui ne parvient pas à faire monde. Eh bien, il existe aujourd'hui des matières infâmes qui empêchent de faire monde au lieu même où l'on vit. Tu sais bien que nous en sommes là, dans le monde d'aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une civilisation a mis en œuvre les conditions pour rendre le monde ni vivable ni agréable. Ni vivable ni agréable. Ça m'avait fait comme un éclair, ces mots si simples pour dire l'ampleur de la catastrophe. Un flash, une photo, à un instant T, une image figée qui représente un état. Le monde est devenu ni vivable ni agréable. Et ce n'est pas le fruit du hasard, des circonstances ou des aléas, des dieux, des vents ou des volcans. Non, 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 non. Non, non. C'est le fruit du travail des humains. Ou plutôt, en fait, c'est le reste de ce fruit. C'est la pelure. L'extractivisme, c'est comme lorsqu'on pose une division. Regarde, regarde. Tu poses 7. Tu le divises par 3. Bon, tu prends le chiffre 2, tu multiplies au 3 de la division, 2 fois 3, 6. Ok. Tu le soustrais au 7. Tu le soustrais au 7. Il te reste 1. Bon, ben, c'est pas fini. C'est pas fini parce que tu abaisses un 0. On dit comme ça dans ma civilisation, on abaisse un 0. On ne sait pas d'où il vient. Enfin, tu l'abaisses. Et puis, à droite, tu ajoutes une virgule. Là non plus, on ne sait pas d'où elle vient, la virgule. Mais enfin, elle est là, tu l'abaisses. Tu la prends, tu la poses après le 2. Et puis, ça recommence. Alors, tu prends le chiffre 3 et tu le multiplies par le 3 de tout à l'heure, là, de la division. Et le reste, bah, c'est 9, bien sûr. Et puis, tu le soustrais au 1 avec son 0 abaissé. Et bah, 10 moins 9 égale 1. Voilà, il te reste 1 encore. Avec, et puis, tu abaisses un 0. Alors, le résultat, c'est 2,3, mais il te reste encore 1 avec un 0 après. Et bien, tu peux continuer à diviser, tu peux continuer à abaisser des zéros à l'infini et à multiplier 3 par 3 à l'infini, il te restera toujours 1 et un 0 qui s'abaisse à l'infini. Dans la répartition des valeurs, enfin, et à droite de l'opération, pardon, évidemment, tu auras 2,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans la répartition des valeurs, il y a souvent un reste au fond de l'opération. Tu te souviens ? Eh bien, à l'école de ma civilisation, je n'ai jamais appris à faire quelque chose de ce reste. Toujours, on me demandait le résultat, et le reste, jamais. Eh bien, dans la vallée de l'Orbiel, c'est pareil. Une division a été opérée entre les matières de la vallée, et la vallée de l'Orbiel, c'est ce reste. C'est l'un de ces restes. C'est le reste du reste, du reste, du reste, du reste, du reste, du reste. C'est le monde qui reste au fond de l'opération de division. Eh bien, c'est ce monde-là que je voudrais saisir. Je savais que ce serait difficile, et je ne savais pas que ce serait si difficile. Parce qu'en fait, on ne parle pas d'une catastrophe sans se mettre dedans. Et le langage convoque quelque chose qu'on a là, là, sur la gorge, et ça pénètre en soi, et ça fouille, et ça résonne, et puis, ben, c'est le vertige. Alors on se raccroche aux phrases, à des paragraphes. Je me suis raccrochée à ma langue maternelle. Tu vois, en fait, ça ne va vraiment pas être facile de saisir une catastrophe avec des phrases et des paragraphes. Cette langue-là, elle s'est tellement habituée à séparer les choses. Elle se prend souvent pour une puissance d'ordonner. Enfin, c'est l'une et seulement l'une de ses fonctions. Ça aussi, je l'ai appris à l'école. Tu sais, quand on disait « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Mais cette citation, mais combien de fois elle m'a fait pleurer ? Combien de fois elle m'a fait pleurer de sentir que ma langue, elle était lourde, qu'elle était gourde là, et de ne pas arriver à dire là, le chaos là, dans ma tête, et puis dans le monde, là, les catastrophes, c'était comme des anomalies que ma langue était incapable de dire alors que je les éprouvais si fort. Tu vois, ça va pas être facile. De parler de catastrophe et de tenter d'en faire le tour et de la concevoir et puis de la partager et puis de la mettre en commun, de s'accorder avec ce vertige. Voilà, c'est ce que j'ai éprouvé pour commencer. Alors je prends l'adage et j'en déduis son corollaire, et ce qui est inconcevable je déclare que ce qui est inconcevable s'énonce mal. Les catastrophes se conçoivent mal et mon langage l'énonce comme il peut. Il peut... Mon langage peut, tu vois, ça va pas être facile. Ça va être chaotique. Il va falloir s'accrocher à des bouts de phrases, des restes, des images, des représentations. Ça va pas toujours s'accorder, pas toujours dans le bon ordre. Enfin, je vais tenter de faire des images. Comment parler d'une catastrophe qui ne dit pas son nom? Alors, sans Albéric Ollier, pour commencer, je n'aurais mais rien vu. Rien de ce que j'appelais alors la mine d'or de Salsigne. Rien de ses restes. Je ne voyais rien. Je serais remontée dans la vallée, depuis Carcassonne. Je serais passée par Trèbes. Je serais arrivée à Conques-sur-Orbielle. Et j'aurais vu des landes de terre, et mes yeux auraient été attirés par les vignes éloignées de la rivière, puis les haies de cyprès qui annoncent l'entrée d'un domaine viticole. Et j'aurais vu dans les méandres de l'Orbielle, au nord de l'Aude, ceux de l'Orbieu, au sud de l'Aude. Et j'aurais même cru qu'il s'agissait des Corbières. Alors qu'ici, on est dans les contreforts de la montagne noire. Et j'aurais vu les chênes verts du goût de la Méditerranée. J'aurais vu les chênes verts par goût de la Méditerranée, et j'aurais vu les peupliers, j'aurais vu la rivière en fond de la vallée. J'aurais cru qu'on pouvait s'y baigner. Et avant d'arriver à Lastour, jusqu'aux quatre tours de Lastour, que j'aurais d'ailleurs rangé dans le circuit des châteaux cathares, je n'aurais pressenti que cette rivière. Et même en prenant la route à gauche vers Salsigne, je n'aurais vu que le paysage s'ouvrir sur des vignes, puis un causse. La mine à ciel ouvert, je ne l'aurais pas vue, parce que je prenais ces terrils pour des collines. Savoir où est l'arsenic est difficile, mais pas que. Car ce qu'on connaît mal, ce qu'on dit qu'on connaît mal, ce dont on n'est pas certain, ce sont des effets de l'ingestion à petite dose de l'arsenic. Ces effets n'ont pas été étudiés. Ces effets n'ont pas été suffisamment étudiés alors qu'ils affectent potentiellement des milliers et des milliers et des milliers de personnes sur Terre. Les effets de l'arsenic à petite dose, l'exposition des corps à l'arsenic, on ne connaît pas. À l'arsenic, mais pas que. Bien sûr que ces études sont difficiles et contrairement à l'amiante, les symptômes de l'exposition à l'arsenic ne sont pas spécifiques. La recherche des causes n'est jamais évidente, car l'arsenic n'est jamais seul. Il y a toujours d'autres matières avec, d'autres expositions et d'autres matières dans tous les parcours de vie. C'est l'embarras. Et puis les normes varient. En France et aux États-Unis, le taux d'exposition qui détermine un risque n'est pas le même. Et puis, les médecins ne sont pas formés en toxicologie. Ce n'est qu'une option dans le parcours des études médicales en France. Il faut dire que l'élément arsenic est tellement changeant selon son environnement qu'il est difficile de stabiliser les connaissances à son sujet. D'autant que sa toxicité varie au fil de ses métamorphoses. On dit alors qu'on étudie la spéciation de l'arsenic. La spéciation, c'est l'espèce dans laquelle il s'incarne dans l'eau, qui n'est pas celle dans laquelle il s'incarne dans l'air ni dans la roche. Le gaz d'arsine, l'arsénite, l'arséniate sont très toxiques. Les composés organiques le sont un peu moins, mais suffisamment pour qu'on les ait utilisés dans la composition d'insecticides ou dans certains remèdes encore aujourd'hui. L'arsenic, la vérité, c'est que personne ne veut faire avec. Oui, quand même, dans la cité, on jouait sur les tas d'arsenic. Quand on était gosse, on faisait de la luge. C'est Madame Entrailles qui me le dit, c'est la voisine des Archaouis. Elle est arrivée pour donner quelques poissons de pêche, de la pêche de son mari qu'il a pêché dans la rivière. Et qu'est-ce qu'elle balaye lorsqu'elle, chez elle, lorsque ses petits-enfants arrivent. Ça lui est resté de la cité, ça aussi. Elle balaye toutes. Madame Entrailles balaye, et Madame Puig balaye, et Madame Ollier balaye, Madame Braille balaye, et Madame Samolenko balaye, et Madame Archaoui balaye, et Madame Pétézic, et Madame Dubry, et Madame Auger, et Madame Guégan balaye, Madame Willem, et Madame Labattu, Madame Montané, Madame Doumergue, Madame Ladaveza, et Madame Vikevitch, et Madame Marty, Madame Casals, et Madame Amgar, et Madame Sanchez, Madame Rouzoul, Madame Balbastre, et Madame Marty, Madame Espuche, Madame Balzac, Madame Gezawani, et Madame Scala, elle balaye toutes les poussières des poussières d'arsenic chez elle. C'est pour ça que la cyanuration fut présentée comme un progrès pour le traitement du minerai, puisque cette technique ne provoquerait plus de fumée. Il était d'autant plus facile de se passer des fours water jacket, il y en avait 3 en tout dans la vallée. C'est ceux qui servaient à récupérer et à valoriser l'arsenic en le faisant passer de l'arsenic noir à l'arsenic blanc. C'était d'autant plus facile de s'en passer que cette matière avait de moins en moins de débouchés. Les États-Unis, principaux importateurs, les propriétaires de la mine étaient alors canadiens, avaient stoppé le marché au début des années 70, lorsque les sociétés qui fournissaient les armées, Monsanto et Dow Chemical, n'eurent plus besoin de la production de salsigne pour composer les herbicides qu'on appelait agents bleus et agents orange, qu'ils épandaient sur les campagnes et les forêts vietnamiennes. Dans mon enquête, là, quel plan garder ? Un plan sur les tomates, celles que les Archaouis ne cueillent plus mais qu'ils cultivent pour les gestes. Dans le jardin en bordure de l'Orbiel, vers Conques, il y a des tomates toute l'année. Elles sont semées, plantées, les feuilles sortent, les surgeons sont coupés, les plants sont étayés, les fleurs éclosent, petites étoiles blanches qui font bientôt apparaître les rondeurs vertes à peau tendue. Les fruits grossissent, la pompe tire l'eau du puits tout l'été, ils rougissent, ils grossissent et s'amollissent. Et aucune main pour les cueillir parce qu'aucune bouche pour les manger. Parce qu'aucun corps pour en faire son affaire. Un plan sur des tomates dans le brouillard de la vallée, fin octobre. L'herbe est jaunie par endroits. Les tomates ont des taches noires, certaines sont écrasées au sol et les peupliers ont laissé tomber leurs feuilles d'or. Les dahlias dressent leurs têtes ébouriffées et séchées. Est-ce qu'on peut dire que les Archaouis cueillent des tomates ? Ou plutôt, est-ce qu'on peut dire que les Archaouis cultivent des tomates ? Moi, je n'ai pas de cadre pour penser ça. J'essaye de saisir cette histoire de génération de tomates, cette histoire d'élan de vie des Archaouis, la dépense de la vie, là, pour la gagner et la mériter, et là, je suis perdue. J'ai perdu mes repères. J'essaye de récolter des récits et lorsque je pense qu'ils sont séparés, ce sont les mêmes. Et lorsqu'ils s'annoncent comme différents, lorsqu'ils s'annoncent comme les mêmes, ils sont divergents. C'est la crise dans les mots. Madame Archaoui, elle me dit, selon les jours, la poudre blanche en aurait dit de la neige. J'essaye d'imaginer toute cette neige dans la vallée, neige de pollen, neige d'arsenic, et c'est un poème qui vient. De la neige qui serait de l'arsenic et qui ensemencerait un monde dans la vallée. J'essaye d'imaginer cette monstruosité contemporaine qu'on n'aurait pas encore appris à penser ni à parler, où le monde tremblerait tellement qu'on ne saurait plus distinguer les forces de mort et les puissances de vie dans ce qui surgit et qui englobe. un flocon dans la vallée. Les mots s'avancent. De la neige de peuplier flotte dans la vallée. Les mots s'avancent et tentent une image. Une étoupe de vent tiède flotte au-dessus d'une campagne. Alors, on dit une campagne dans l'Aude pour une lande de terre, comme une langue de terre qui s'étale au bord de la rivière. On appelle ça une campagne. Un flocon dans la vallée. Un flocon de quoi ? Je reprends. Voici. Un flocon dans la vallée. De la neige de peuplier flotte dans la vallée. Une campagne prise entre la route et la rivière, entre une falaise de schiste est et une falaise de schiste ouest, où poussent des chênes verts. Un flocon flotte et tournoie. Ici, le gué de la Sac. Une campagne entre deux falaises. Elle passe la rivière. Le flocon de semences flotte et tournoie. Il porte le lointain souvenir des racines du peuplier qu'il a porté. Sève remontée depuis l'hiver. Il flotte entre les autres peupliers, s'assure qu'ils sont encore là. Ils sont encore là. Troncs pâles dressés et feuilles bruissantes, vent tiède, leur sève monte depuis des temps lointains de la terre. Au nord, schiste frappé aux rencontres des continents. Au sud, des alluvions neufs déposés dans le lit de l'Aude. Double mémoire des sols portés par le flocon de peupliers, dans le bruissement des feuilles de l'année et dans les remous de la terre. Un flocon de semences tournoie dans la vallée. L'air tiède soulève le flocon chaud sous le soleil, plus haut que le souvenir de la plus haute cheminée. Les flocons de l'année mêlent le pollen aux fumées. Fumée lourde, recrachée sans saison, un siècle de fumée, chrome, cobalt, molybdène, sélénium, titane et tant d'autres matières à peine nommées. Métaux lourds, on les appelle ici comme partout. Métaux dispersés par l'absente cheminée, métaux de partout, métaux partout, et le pollen les porte en flocons de mémoire étouffés dans la vallée. Les flocons flottent, ils tournoient dans le ciel tiède de la campagne, entre les falaises ils s'élèvent dans le souffle qui remonte de la vallée chargée de leur triple sémence mémorielle, et ils s'élèvent et tournent et s'immiscent au souffle de tout ce qui s'anime dans la vallée, et les flocons flottent et tournoient et dispersent leur pollen à toute narine, et les narines prennent pollen, et les gorges prennent pollen, et les yeux prennent pollen, et les oreilles prennent pollen, et les brebis prennent pollen, et les piques et pêches prennent pollen, et les gardons prennent pollen, et les garçons prennent pollen, et les filles et leurs mères prennent pollen, et les hommes prennent pollen, et les femmes prennent pollen, et le monde prend pollen, et les yeux piquent, et les yeux pleurent de tant de pollen ensemençant tant de souvenirs. Une blanche mémoire flotte dans la vallée. La campagne tend sa langue par-delà la rivière, un flocon s'y dépose, il se souvient. Alors, voilà ce que j'ai appris à propos des pollutions dans la vallée de l'Orbiel. C'est que les pollutions, elles viennent en fait désagréger tout ce qu'on avait appris pour faire monde. Elles empêchent, on le sait, elles empêchent de savoir si on peut faire confiance à nos sens. Nos sens, c'est cette expérience qui nous permet de savoir s'il y a du danger ou s'il n'y en a pas. Ce qu'on sent, si c'est chaud, si c'est froid, ce qu'on entend, le goût que ça a. Eh bien, les pollutions, elles mettent au défi les sens. On peut manger quelque chose, le trouver bon et c'est pollué. On peut toucher quelque chose, le trouver doux, moelleux, agréable et c'est pollué. On peut manger, etc. C'est-à-dire que nos sens sont mis au défi par les pollutions. Elles sont d'autant plus mises au défi que l'ensemble de l'histoire des pollutions raconte aussi la séparation de nos sensations d'avec nos connaissances. Depuis, ça ce sont les historiens François Jarige et son collègue, j'oublie son prénom, Leroux, qui montre comment, depuis le XIXe siècle, avec les industries, arrivent aussi les experts des agences d'État qui viennent dire que on ne peut plus savoir, nous, riverains des industries, on ne peut pas savoir si c'est pollué ou pas. Une mauvaise odeur, non, vous ne savez pas si c'est pollué. Un goût bizarre, non, vous ne savez pas si c'est pollué. Donc en plus d'avoir ce défi des sens, on a été séparés de nos corps pour ne plus faire confiance à nos corps. Ça, c'est un point. L'autre point encore, avec les pollutions, ce que j'ai appris, c'est que les pollutions, elles mettent au défi nos gestionnaires. Parce que nos gestionnaires ont pris l'habitude, et c'est ce qu'on attend d'eux, de gérer. On attend qu'ils aient une bonne gestion de nos territoires et de nos conditions de vie. Or, les pollutions, elles sont ingérables. Vous essayez de cantonner des pollutions, elles débordent. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, que ce soit dans le sol. Le propre des pollutions, c'est de déborder. Pourquoi ? Parce que les pollutions ne sont pas des objets. Les objets, on peut en faire des déchets. Et les déchets, on peut en refaire des objets. C'est ce que travaille la question du recyclage. Les pollutions, c'est ce qui échappe à ce cycle. Dans le cycle des objets aux déchets, des déchets aux objets, il y a ce qui s'échappe, et ce qui s'échappe, ce sont les pollutions. Le propre des pollutions, c'est qu'elles échappent. Elles sont tout le temps en train d'échapper. Et donc on essaye de les gérer alors qu'elles sont ingérables. Parce que lorsqu'on veut les gérer, on essaye toujours de les confiner, de les... on dit confinement des pollutions. Il n'est pas possible de confiner des pollutions. Dans la vallée de l'Orbiel, il y a de grandes géomembranes qui tentent de cantonner les pollutions. C'est aux géomembranes se percent. C'est aux géomembranes, surtout, débordent, puisque lorsqu'il y a des épisodes Cévenol, ce qui arrive, comme on sait souvent, et comme on sait avec la question du réchauffement climatique, ces débordements n'arrêtent pas d'arriver. Ce sont les pollutions qui débordent en même temps. Elles mettent au défi, les pollutions aussi, quelque chose qui est beaucoup plus, je crois, inquiétant pour nous, peut-être pour nous Français, Européens, formés à un esprit scientifique, à un esprit rationnel, c'est-à-dire qu'elles mettent aussi au défi les sciences. Les sciences travaillent avec des objets d'études. Or, les pollutions ne sont pas des objets. Et elles ne sont pas des objets d'études non plus. En tout cas, pas telles que les sciences ont travaillé leurs objets d'études. Pour avoir un objet d'étude, il faut pouvoir l'isoler. Quand on essaie d'isoler une pollution, on isole des molécules. Sauf que les molécules, elles s'accumulent avec d'autres molécules, et encore avec d'autres, et encore avec d'autres. Là aussi, ça échappe. Donc on peut étudier une molécule et conseiller de l'interdire. C'est ce que font les industries sur les conseils d'agences de l'État qui sont conseillées par les chercheurs. Chacune des industries peut dire « mais nous on n'aimait pas trop de ce type de molécule ». Sauf qu'une industrie avec une industrie avec une industrie, ça fabrique d'autres molécules. Donc chacun est dans les bons seuils, mais chacun aussi respire ce qu'on ne sait pas. Il y a aussi cette mise au défi entre la cause et la conséquence. Parce que voilà, l'amiante est l'une, on pourrait dire, c'est peut-être, alors qu'on a tous entendu parler de l'amiante, il a fallu 80 ans pour faire reconnaître que l'amiante était dangereuse. Et pourtant, c'était la plus facile des pollutions à faire reconnaître parce que à une maladie correspond une matière. C'est à peu près la seule pollution qui fonctionne de cette façon-là. Puisque les maladies d'aujourd'hui sont, comme on dit, multifactorielles. Donc il est très difficile de revenir sur la question de la cause à effet quand il s'agit des pollutions. Ça, c'est la sociologue Thibault Mauny qui l'a très bien montré, qui a longtemps travaillé avec Henri Pezra, précisément autour de l'amiante. Et puis, les pollutions, qu'est-ce qu'elle défend encore? Eh bien, c'est le tissu social. Parce qu'il y a du déni autour des pollutions. Il y a du silence, il y a de l'ignorance. Et donc, il y a aussi du conflit social parce que les personnes qui parlent des pollutions parlent de manière angoissante, de manière inquiétante. Donc, les pollutions, elles désagrègent cela aussi. Et souvent, ce que préfèrent... elles mettent au défi d'apprécier de se disputer. Parce que toujours, elles créent du conflit. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du conflit alors qu'on se dit que pour bien vivre ensemble, il vaut mieux ne pas en parler. C'est cela qu'elles mettent au défi aussi, les pollutions. Et autre chose encore, en enquêtant dans la vallée, ce que j'ai compris aussi, c'est que les pollutions, elles viennent creuser à un endroit où, quelque chose comme la puissance de vie. C'est-à-dire que lorsque vous dites à quelqu'un qui a travaillé dans la mine qu'en fait, il est venu polluer, ça lui fait mal à plein d'endroits. D'abord parce que c'est le sens de son travail, c'est la fierté du travail qui en prend un coup. Qui n'aime pas être fier de son travail? Chacun a envie de l'être, les ouvriers aussi. Et quand on vient leur dire qu'ils sont venus polluer, ça met cette question-là au défi de la fierté au travail. Autre chose, il y a évidemment l'angoisse de ce qu'on lègue aux enfants. On est sur une terre polluée et on se dit comment on va pouvoir donner le terrain, comment on va pouvoir le transmettre. Ça aussi, ça s'appelle de la puissance de vie, c'est-à-dire puissance de vie à gagner sa vie, puissance de vie à la donner aux enfants. Là aussi, ça s'est mis en péril. Donc en fait, les pollutions, elles viennent troubler cette question, plus que troubler, elles viennent désagréger les puissances de vie et toutes les manières de... Je m'emballe parfois. Elles viennent désagréger cette manière de faire vie qui était la nôtre du temps des modernes. Et voilà, nous en sommes là. C'est ce que je me suis dit. Nous, les modernes, c'est là qu'on en est. D'autres civilisations ont encore leur mère nature et savent encore parler avec elle. C'est ce que rapportent les ethnologues depuis que l'ethnologie existe. Et de façon tenace, les ethnologues nous rapportent que d'autres que nous sont autres que nous et que nous n'avons pas la même nature. La nôtre, de terre-mère, elle est comme... c'est cette métaphore qui m'est venue... Elle est comme Emma Bovary. Vous savez, Emma Bovary, c'est l'héroïne de Flaubert. C'est celle qui qui a valu un procès à Flaubert. Pourquoi ? Parce qu'elle jouissait de la vie. Une femme jouit de la vie. Une femme a des amants, se met à avoir des dettes, dépense plus qu'elle a, s'achète des soieries, s'achète des bijoux, va à Rouen quand elle le souhaite, trompe son mari. Ça vaut un procès à Flaubert. Eh bien, j'ai posé une grande métaphore entre cette vallée de l'Orbiel qui avait joui de l'or et qui a terminé suicidée à l'arsenic. Ben voilà, notre terre-mère, elle est comme Emma Bovary. Comme si la Pachamama des Incas ne savait plus ni nourrir, ni rassurer, ni porter ses enfants. Une déesse-mère emportée par la course du productivisme, et qui rêve de progrès, et qui rêve d'or, et qui rêve d'adultère, et qui se vend au plus offrant, et puis qui s'endette, et puis c'est une mère qui veut être femme, et que les hommes exploitent, et fouillent jusque dans ses entrailles, et à qui il ne reste plus que le, venin à la fin des rêves échoués dans un flot de dentelles et de bave, et puis une mère à qui sa fille ne trouve rien d'autre à dire que « oh maman, que tu es pâle et que tu sues et que tu es sale et que tu pues avec tes grands yeux qui ont tout dévoré, grand déchet, maman, devenue improductive et de tes mains décharnées. » C'est donc là que j'en suis. Je me suis laissée guider à travers des centaines d'hectares vallonnés. Un guide déplie pour moi les dessous du paysage et tout à mon projet de représenter les déchets qui s'écoulent dans la mer Méditerranée, de l'Orbiel à l'Aude et de l'Aude à la mer, je déclare, là, moi, là, l'héritière des modernes, je déclare que toute cette matière, ça je ne fais pas dans la demi-mesure, que toute cette matière et de tout ce qu'elle a touché, c'est du poison. C'est du déchet, et que la vallée de l'Orbiel, c'est un grand revers de la production, et que ce guide nous révèle en soulevant ici ou là le tapis des géomembranes qui confinent la vallée tout entière. La phrase de Béatrice tournait parfois à mes oreilles. Tu vois, on vit bien ici. Alors je ne voyais pas du tout. Et puis, un souvenir a surgi. Enfant, je passe des vacances dans l'Aude avec des parents, des frères, des sœurs. Pardon. Et ces vacances, lors de ces vacances, nous nous baignons et nous nous promenons dans la fraîcheur des rivières. L'été est chaud. Et avec l'un de mes frères, le jeu consiste à chercher de l'or entre les pierres, et à nous fabriquer des tamis, et à attraper tout ce qui brille. C'est mon été chercheur d'or, comme il y a eu une période tailleur de silex. J'ai 8 ans. Et durant ce même été, je deviens allergique aux fraises. Elle me donne une urticaire virulente, et mon corps devient rouge et granuleux dès que j'en mange. Ma peau gonfle et brûle. C'est ma première et unique allergie alimentaire, le temps d'une saison. Alors voilà, dans la rivière de mon enfance, je suis chercheur d'or et je me retrouve avec une peau de fraise. Et plus de 30 ans plus tard, je redécouvre les fraises du nord de Carcassonne et j'apprends l'interdiction de faire pousser là désormais, par arrêté préfectoral renouvelé depuis chaque année depuis 1996, du fait de la trop grande toxicité de l'eau. Et j'apprends que dans les années 80, la mine fonctionnait encore et que l'eau était tout aussi polluée. Mais les fraises avaient encore droit de citer dans la vallée. Été 83, c'est donc ma rencontre avec la mine d'or, son imaginaire dans mes jeux et les effets de l'arsenic sur mon corps. Est-ce que c'était la même rivière? À Salsigne, passe l'Orbiel ouest. À Villeneuve-Minervois, c'est la Clameau. Est. Ces deux affluents de l'Aude, du même bassin versant, ne communiquent pas en surface. Est-ce que mes parents auraient été informés de la présence de la mine? Sinon, pourquoi aurions-nous joué aux chercheurs d'or? Nous aurait-il amenés dans cette rivière arsénée? Eux qui sortaient de 10 ans d'usine? Et elle en particulier, mobilisée contre l'amiante dans les comités d'entreprise où elle s'était engagée. En tout cas, j'ai mangé des fraises cet été-là, et avec elle, des restes de la mine. Je veux garder de ce souvenir d'enfance la réponse d'un corps à une substance. Car si je sais que je n'ai pas trouvé d'or dans la rivière, je sens que des fraises se sont constituées pour moi en ambassadrice de l'arsenic, de l'envers du décor. Et ma peau s'est retournée et ma peau s'est faite fraise. Je prends l'allergie comme une réaction à une rencontre, une tentative d'accordage. Je prends cette situation comme une conversation entre du minéral et du végétal et de l'animal, entre ce qu'il reste d'un minéral, d'un végétal et d'une humaine héritière de l'envers du capitalisme. Et soudain, j'ai moins eu envie de jeter toute cette vallée. Et puis ma mère est morte. Ma mère est morte d'un cancer qu'elle supposait dû au traitement qu'elle avait pris pour atténuer les effets de la ménopause. J'ai moins eu envie de jeter toute cette vallée. Il y avait une espèce de démon de l'analogie, de grande comparaison qui s'était emparé de moi, où voilà, j'avais mis en place ces grandes comparaisons entre la vallée, ma Bovary, ma mère, et cette terre qui se dérobe. Et c'était déjà un des premiers moyens de dire la catastrophe, c'est-à-dire de sortir de cette façon qu'on a, qui est très importante, qui est constitutive de notre civilisation, mais de trouver d'autres manières de faire. Et cette manière-là, c'est de toujours compter quand on a affaire à une catastrophe. Dans notre civilisation, toujours on compte, que ce soit le reste du reste, ou on compte. On compte le nombre de morts, on compte les tonnes de matière, on compte les malades, on compte les seuils. Et toujours, quand on a une catastrophe, on compte. Mais dans d'autres civilisations, il y a d'autres manières de parler des catastrophes. Il y a donc notamment celle qui consiste à fabriquer des mythes. Peut-être avez-vous entendu parler de Baptiste Morisot ou de Nastasia Martin qui disent l'importance qu'il y aurait aujourd'hui à se fabriquer des mythes. Avec ces comparaisons-là que j'avais mises en place, je me retrouvais avec un mythe, celui d'une terre-mère qui aurait la figure d'Emma Bovary, ce qui permet déjà de situer là où on en est. Il s'agit d'en travailler à d'autres mythes, peut-être pour transformer, mais au moins déjà ce mythe dit le danger dans lequel nous sommes. Il y a là un personnage mythologique qui arrive et qui nous dit quel type de relation on a avec la terre-mère aujourd'hui. Il y a aussi, pour parler des catastrophes, savoir, et tout en tenant ensemble, comprendre ce qui nous détermine, il y a d'autres civilisations qui fonctionnent par clan et qui trouvent leur totem et qui, malgré toutes les dissensions qu'il peut y avoir, que toutes les disputes, comme c'est tous les conflits, comme c'est le propre des humains de se disputer, d'avoir des conflits, ce qui est bien normal, eh bien, de savoir qu'on tient quand même à un totem et qu'on fait partie du même clan. Et donc j'ai cherché dans la vallée, je me suis dit, mais où est ce clan? Où est ce totem? Enfin, le clan, parce que c'est très divisé dans la vallée, entre ceux du nord de la vallée et ceux du sud de la vallée, ça ne se parle pas. Au sud de la vallée, les habitants subissent les inondations, les débordements, ont des taux de maladie plus forts qu'au nord. Au nord, ce sont les anciens mineurs qui tiennent la mémoire de la mine. Donc il y a un conflit à l'intérieur. Et donc j'ai cherché le totem, et le totem, je l'ai trouvé sous terre. Le totem, c'est la chaîne hercynienne. Le totem, c'est cette grande chaîne qui, dans les premiers temps de la Terre, s'est formée du fait de la grande rencontre des continents, l'Eurasia, le Gondwana, qui ont écrasé le petit continent qu'il y avait au centre, qui ont fait des plis monstrueux. Et dans ces plis monstrueux, s'est formée la chaîne hercynienne. Et lors de la dérive des continents, ça a créé d'énormes failles. Dans ces failles, dans ces plis, on trouve aujourd'hui toujours de l'arsenic. Alors on en trouve dans la vallée de l'Orbiel, on en trouve en Espagne, on en trouve dans les Appalaches, on en trouve dans le Caucase. C'est la même chaîne, on en trouve dans l'Allier. C'est la même chaîne hercynienne qui aujourd'hui compose... qui aujourd'hui, en fait, pourrait relier tous ceux qui vivent avec l'arsenic. Voilà où est le totem. Imaginez si tous ces riverains de l'arsenic se mettaient à se reconnaître du même clan et à échanger leur savoir-faire autour de l'arsenic. et autour de tout ce qui vient avec l'arsenic. On n'en serait pas au même point. On aurait des échanges. Autre manière encore de parler des catastrophes, c'est de reconnaître les attachements qu'on a avec le lieu dans lequel on vit et de faire en fait des pollutions une occasion de parler, de reconnaître que l'autre peut nous transformer. Si on reconnaît que l'arsenic peut nous transformer, ceux qui parlent de l'arsenic peuvent nous transformer. Et donc c'est aussi la question de reconnaître ce que l'autre fait en moi et ce que je peux lui faire en lui. Et donc commencer à savoir que les échanges nous transforment les uns les autres. Et à ce moment-là, de se mettre à inventer des formes d'être ensemble qui sont moins sur les oppositions, mais davantage sur les transformations. Mais ça demande de s'accorder sur la volonté de se métamorphoser. Les habitants de la vallée de l'Orbiel régulièrement dessinent des cercles et ils construisent des scènes pour faire apparaître les différents et faire exister les faits qui surgissent de leur corps et de leur sol. Et ils ont depuis longtemps formé des associations qui s'adressent à des chercheurs. Cette chercheuse, par exemple, aujourd'hui, est venue avec des chercheurs. Et elle est financée par l'un des services de l'État qui a perdu sa crédibilité depuis longtemps ici. Et la chercheuse ne le sait pas. Enfin, la chercheuse fait comme si elle ne savait pas qu'elle était venue de l'ARS et que l'ARS a perdu sa crédibilité ici. La chercheuse cherche et dit qu'elle cherche. Et que sa science ne se préoccupe que de la controverse entre l'arsenic 3, le toxique, et l'arsenic 5, le taciturne. Et que c'est là son unique combat et qu'il n'est pas question qu'elle fasse de la politique. Les habitants de la vallée de l'Orbiel ont combien de fois mis en place des mesures pour faire réagir les services de l'État ? Ils l'ont fait en 1937, en 1986, en 1990. En 1996, en 1999, en 2005 encore, en 2012, au printemps 2019 et à l'automne 2019, au printemps 2020, campagne de mesure des urines des enfants, des cheveux des habitants pour y mesurer les taux d'arsenic. Une équipe de recherche de Montpellier est venue 2 semaines avant la chercheuse et ils ont rencontré les habitants. Ils leur ont expliqué que leur protocole n'était pas fiable. Recueillir des cheveux pour mesurer l'arsenic, pas fiable. Recueillir des cheveux, surtout sans recueillir le parcours de vie de la personne sous les cheveux, pas fiable. Et les habitants ont demandé à ces chercheurs par qui ils étaient financés. Ils étaient financés par l'ARS. Et les chercheurs ont demandé aux habitants par qui ils avaient été embarqués dans cette mesure de cheveux. Et c'était par le Secours catholique. Et les chercheurs ont déclaré que l'Église, dans ses mesures scientifiques, pas fiable. Et les habitants ont rétorqué que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah, le cœur a ses raisons et la raison ne connaît pas le laudat aussi. Que des habitants opposèrent en silence aux chercheurs venus pour stabiliser l'arsenic dans les corps et dans les sols, mais pas que, dans l'air aussi. L'arsenic se métamorphose rapidement dans la vallée de l'Orbiel, mais pas que. Plus ou moins toxique selon qu'on le trouve sous des formes d'oxydes ou sous forme de minéraux. Il y a celui qui assure le bruit de fond géologique auquel travaille le doctorant qui est présent ce 19 octobre pour que le BRGM cesse de brandir des décibels de l'arsenic naturel. Et il y a de l'arsenic, des restes de l'usine du gaz d'arsine qui a servi à la production du gaz de la Grande Guerre, mais pas que. Il y a aussi de l'arsenic déversé à flanc de colline tous les jours. Et les Sénessons, en chœur, peuvent témoigner que l'arsenic qui a été saisi ce jour-là par la lumière n'est déjà plus sur le flanc de cette verse, mais bien plus bas dans la nappe phréatique et dans la vallée de l'Orbiel qui afflue dans l'Aude et dans tous ces cours d'eau sans nom qui coulent sous terre et qui rejoignent la Méditerranée. Et des fois il pleut, des verses. Ah, laudato si, mi signore, per frate vento, loué sois-tu, mon Dieu, pour frère vent. Et pour l'air est nuageux et serein et en tout temps. Par lui, à tes créatures, tu donnes subsistance. Laudato aussi, mes signores, pour sœur eau, tellement utile et humble et précieuse et pure. Laudato aussi, mes signores, pour frère feu que tu illumines la nuit et il est beau et joyeux et robuste et fort. Laudato aussi, mes signores, pour sœur notre terre-mère qui nourrit et nous préserve et engendre fruits nombreux avec fleurs colorées et herbes. Le Laudato aussi, c'est la prière de saint François d'Assise, celle qu'il a reprise et développée, que le pape François a reprise et développée dans sa seconde encyclique pour la sauvegarde de la maison commune. Et dans la maison commune, il y a des corps empoisonnés, il y a ma maman qui meurt empoisonnée à l'arsenic, mais pas que, empoisonnée aux histoires qui lui ont fait espérer une vie toujours meilleure, jamais atteinte, mais pas que, empoisonnée de s'être donnée à qui elle n'appartenait pas et d'avoir dépensé ce qu'elle n'avait pas, mais pas que, empoisonnée d'appartenir aux hommes qui ne la méritaient pas, d'avoir engendré ce qu'elle n'aimait pas et d'être administrée par qui elle ne le connaissait pas. Mais maman, maman, terre maman, c'est ta fille qui te parle là depuis le présent. Si tout le monde s'affaire là autour de toi, c'est que tu vis, maman. Maman, tu es là?
Merci bien, Claire. S'il y en a parmi vous qui ont des questions tout de suite à poser, comme ça en public, on vous fait passer un micro, on vous demande juste de bien parler dans le micro, car c'est enregistré.
On ne peut que faire le parallèle entre cette exploitation pour l'or et l'arsenic avec les déchets engendrés par l'énergie nucléaire, avec sans doute une échelle encore plus grande. Mais vous aviez dit en premier lieu que le monde actuel était pour la première fois ni vivable ni agréable. Je pense que c'est un postulat qui est un peu faux, dans le sens où par certains aspects, bien souvent tout le long de l'humanité, il a été ni agréable ni vivable pour la grande majorité des gens. Et que, à contrario, maintenant, il semblerait qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui le vit mieux et qui le trouve plus agréable qu'avant. C'est un peu faux, à mon sens, de dire tout le temps qu'avant, c'était mieux. Mais par rapport à cette réflexion-là, il y a aussi, plus tard, vous dites, nos sens sont mis au défi. Et effectivement, on trouve que le monde d'aujourd'hui, enfin, pour la petite partie de la population qui est un peu privilégiée, on trouve que le monde est plus agréable qu'il n'était avant. Mais effectivement, c'est que nos sens sont sans doute, comme vous l'expliquez, trompés. Et que on trouve que c'est bien, mais on n'a pas la conscience du fait que le fruit est empoisonné, quoi. Technologie moderne et autres, c'est très bien dans la communication et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense que c'est pas la peine de développer. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, quoi. Alors, je vous rejoins sur tout ce que vous dites, quoi. En fait, ceci dit, on est dans le monde de Trump et de Poutine. Comment ce discours-là, enfin, ces arguments-là peuvent passer? On est très peu nombreux ici. C'est difficile d'y croire encore, quoi. Enfin, merci en tout cas pour votre exposé et puis le livre que vous avez fait.
Merci. Peut-être je vais juste revenir sur ce vivable et agréable pour commencer, pour le préciser. C'est-à-dire que c'est là où je maintiens ma position, c'est que auparavant, quand on disait que c'était ni vivable ni agréable, c'est qu'on pensait que les humains n'en faisaient pas assez pour améliorer leur situation. Il y avait des situations qui étaient difficiles à vivre, mais par manque de savoir-faire aussi. Alors qu'aujourd'hui, quand je dis que c'est ni vivable ni agréable, c'est par surplus de savoir-faire humain. C'est ça, c'est là que c'est ni vivable ni agréable pour la première fois. C'est parce que c'est une conséquence d'un trop agir humain et non pas la conséquence d'un manque d'agir. Donc c'est juste cette bascule-là que je désigne à ce moment-là. Mais je suis bien d'accord qu'il y a des conditions dans lesquelles on pourrait se dire voilà, qu'il y a des points sur lesquels la situation s'améliore, mais comme on le sait aussi, pour un nombre d'humains et de vivants de plus en plus restreints sur la planète. Au XVIIe siècle, les différents royaumes qui existaient sur Terre avaient à peu près la même puissance économique. On ne peut pas dire la même chose aujourd'hui. Les inégalités sont énormes. Mais voilà, c'est juste ce point-là et merci pour le commentaire.
Je voulais juste vous partager ce que ça m'a fait écho quand vous parlez les puissances de la vie sont mises à mal. En fait, c'était l'exemple de mon père qui aurait maintenant 95 ans et qui était agriculteur, mais enfin paysan, on va dire, toute petite ferme, sans rien au départ, dans les années 50-55, où il y a eu toute la vulgarisation agricole, voilà, qui s'est lancée, et qui, dans les années 90, faisait le constat qu'en fait, on l'avait, malgré lui, amené à polluer la terre mère, en fait. Et c'est quelque chose qui était très difficile pour lui, en fait, de réaliser ça. Et qu'en fait, effectivement, là-dessus, on ne peut pas dire que nos sociétés ont vraiment évolué, quoi. Après, c'est vrai que, en fait, c'est comment réveiller les consciences, en fait, des gens de la base, en fait, et comment savoir aussi ce qu'on nous fait faire, en fait, aussi, enfin, toutes ces conséquences-là de ce qu'on nous fait utiliser, hein, ce que vous dites par rapport à ces gens qui travaillent dans ces usines. Voilà, c'est ma grande interrogation.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est les années 50-60, on est en plein ce qu'on appelle le début de la grande accélération de la modernité. C'est-à-dire le moment où il y a toute une idéologie qui nous porte aussi à accompagner ces mouvements-là. Et en effet, vraisemblablement, et les ouvriers et les paysans étaient là en première ligne pour comprendre ce qu'on leur faisait faire, bien forcés de le faire. Et là... Dans les colères agricultrices aujourd'hui, voilà, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'ouvriers, il reste quelques agriculteurs. Dans ces colères-là, je pense qu'on peut entendre aussi toute la métamorphose qu'ils ont déjà connue depuis 50 ans, et on tente de les emmener encore plus loin, et ça bloque. Peut-être qu'il y a quelque chose à entendre aussi de ce côté-là. C'est... comment on fait ensuite, suite à ce livre-là aussi, et au fur et à mesure de l'enquête, je me suis rapprochée aussi de chercheurs qui sont en train de monter actuellement dans l'Aude, ce qu'ils appellent un institut éco-citoyen. Il y en a un, le premier a eu lieu, c'est monté à côté de Marseille, à Fos-sur-Mer, à côté de ce grand pôle industriel à l'ouest de Marseille, pardon. Il y en a un autre actuellement dans la vallée de la chimie à Lyon. Donc il y en a un autre qui est en train de se monter dans l'Aude et qui sont des manières de relier science et société à partir des connaissances habitantes et aussi à partir des connaissances scientifiques. Pour s'adresser aux autorités de manière concertée et aussi de prendre des élus aussi dans ce type de mouvement-là pour le faire de façon concertée. J'ai été invitée à ce moment-là, encore une fois je travaille avec ces chercheurs aussi, pour voir comment on renouvelle les langages, comment on renouvelle les façons de se relier les uns les autres à propos des pollutions. Non, nous ne sommes pas nombreux. Espérons que nous le soyons davantage, et on sait que ce type de salon y participe.
Une réflexion concernant les pollutions, donc là ce que vous évoquez, l'arsenic, ça se passe en France. Il y a exactement les mêmes choses d'extractivisme qui se passent au Congo, enfin dans les pays pauvres, pour tout dire, pour extraire des terres rares, des minéraux qui vont servir à produire les smartphones et tous ces objets connectés dont on peut se demander l'utilité au final. Et les chercheurs, vous parlez d'une personne de l'ARS là, qui venait prendre des mesures, qui disait je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais en fait, ce sont des sujets complètement politiques, ça, de savoir si on va aller poursuivre la colonisation dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est un sujet politique. Et je pense qu'en ne politisant pas ce genre de débat, on rate une occasion de trouver des responsables. Parce que tant qu'on n'aura pas nommé pourquoi on en est arrivé là, eh bien voilà, on ne va pas en sortir. Et d'ailleurs, je crois que c'est Baptiste Morisot qui parle de capitalocène. Et ça, je trouve que c'est un argument extrêmement fort. Parce qu'on passe de l'anthropocène au capitalocène, et c'est pas la même chose. Parce que bon, on peut pas dire individuellement, moi je me sens pas responsable de la pollution, j'ai rien fait pour ça, c'est systémique. Donc moi il me semble que c'est bien de politiser ça, parce que sinon on n'a pas l'imagination que ça pourrait être autrement en fait.
Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est important de repolitiser, mais pas... Enfin, la scène de la chercheuse là dans mon livre est bien là pour interpeller sur cette séparation entre science et politique. Mais s'il y a eu séparation entre science et politique, c'est qu'aussi le rythme de l'un des sciences et le rythme de la politique n'ont rien à voir, et que les sciences ont besoin de temps là où les politiques ont besoin d'être efficaces. Donc c'est pas le même registre en fait. On ne fabrique pas de la vérité scientifique comme on fabrique de la vérité politique. Scientifiquement, on peut pas jouer à la majorité. Alors que une raison politique, c'est la raison de la majorité. Donc c'est le défi aujourd'hui, c'est comment articuler le temps politique au temps scientifique et vice-versa, tout en faisant qu'on ait des connaissances de qualité et tout en fondant du collectif à partir de connaissances scientifiques. Des chercheurs y travaillent. Enfin, voilà, peut-être connaissez-vous les travaux du sociologue Michel Calon, c'est Calon, Lacoum et Barthes. La question qu'ils se posent, c'est comment faire entrer les sciences en démocratie. Parce que ça ne peut pas se faire à n'importe quel. Ça peut pas se faire n'importe comment. Donc, oui, il faut politiser, mais. Si on engage les sciences trop fortement dans le politique, on risque de faire perdre aux sciences le temps dont elles ont besoin.
Eh ben, merci beaucoup à vous.